Donc, on a donné quelques éléments, justement, des facteurs qui permettent d'aller vers cette coopération inter-collectivité. Vous pouvez peut-être, justement, à travers votre témoignage, en apporter d'autres.
Volontiers, je vais pomper ce que j'ai là, donc un petit bout d'histoire aussi de mon côté, donc ce qui permettra justement de voir un petit. Et puis en essayant de faire émerger quelques facteurs pour répondre à votre question sur les articulations de niveau et sur la fondationnalité. L'histoire est très ancienne pour nous. Pascal pourra, je pense, en dire un mot certainement du côté de l'Auvergne. Donc on a des outils contractuels. Les outils contractuels sont anciens chez nous, chez chacune des régions. Donc, chez nous, ça s'appelle les CDDRA, les contrats durables de logement Rhône-Alpes, outils célèbres pour un certain nombre d'acteurs. Ou encore plus technocratique, les CFAC. Convention de fonction d'agglomération centralité, c'est un terme en sport. Contrat d'aglo, pour un nom un peu plus sexy. Donc, c'était des contrats globaux de développement il y a très longtemps, Jean-Claude a sans doute connu ça aussi, donc c'est une période préhistorique pour nous. Puisque nous sommes venus de dinosaures de la question, donc Jean-Claude et moi. Donc, il y a des outils qui permettent à la région. Et à un certain niveau, donc agglomérés de collectivités, des supra-intercommunalités, de définir des objectifs communs, avec tout un mécanisme de diagnostic, de programmation, etc. Je vous en passe les meilleurs. Ce sont les politiques d'aménagement du territoire des régions, donc, qui sont maintenant assez structurées, voire un peu ossifiées d'ailleurs, et calcifiées. Et puis, on a dès 2004-2005, à l'émergence de la politique ESS de la région, donc fléché le sujet ESS. Comme dans toutes les démarches contractuelles, il suffit que la région veuille quelque chose pour que le territoire embarque dedans. Donc il faut un accord de volonté au niveau d'un CDDRA ou d'un CFAC pour qu'effectivement on fasse atterrir le sujet ESS dans la programmation locale. Ça a plutôt bien marché sur certaines agglos. C'était même un passage obligé pour certaines agglos, en tout cas c'était présenté comme ça. C'était plutôt porteur de succès sur certaines interco rurales et pour tout un tas d'autres pas du tout.
Parce que du coup, si j'ai bien compris, il y a une véritable autonomie de ces CFAC et de ces CDDR en fait.
C'est un outil en fait qui est librement consenti entre donc un ensemble d'interco. Donc ici par exemple, on est sur une zone où il y a une grosse interco qui est la communauté de communes Val de Drôme. Et une deuxième interco qui est le DIWA. Ces deux interco constituent un CDDRA, qui est le CDDRA de Val de Drôme.
Le DIWA tout seul.
Bon, ok. Il y a deux. Un CDDRA pour Val de Drôme, un CDDRA pour le DIWA.
Mais c'est pas pour Val de Drôme, avec les autres.
Bon, autant pour moi, j'ai un peu mélangé les crayons. Ouais, donc,
c'est
le GPRA qui est.
C'est trois.
C'est l'ensemble, c'est le regroupement de plusieurs territoires intercommunaux. Sur une maille qui est un peu artificielle quand même, donc, qui est une agglomération. Il faut que tous ces élus qui représentent les communes et les interco puissent se mettre d'accord sur des objectifs prioritaires à 6 ans. Pour certains, l'économie c'est une priorité, pour beaucoup. Pour certains, beaucoup moins, l'ESS est aussi une priorité. Donc Val de Drôme a exprimé très tôt le souhait d'inscrire dans son CDDRA, avec ses petits camarades, donc la thématique de l'ESS dans ses priorités. Ce qui nous a permis, avec Val de Drôme et ses petits camarades, de travailler depuis au moins une bonne dizaine d'années sur ce sujet. En l'occurrence, pour nous, il s'agit de cofinancer des actions qui sont portées par les acteurs locaux. Voilà. Ça, c'est la genèse. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une très vieille tradition des régions, c'est pas spécifique à Rhône-Alpes, dans la contractualisation avec les territoires, avec des niveaux qui sont souvent supracommunaux, et largement supracommunaux, puisque compte tenu de la taille des communes, en général, c'est trop petit pour que ce soit visible à l'œil de la région. Donc la deuxième histoire, c'est celle... alors c'est vrai aussi pour les agglomérations. Et donc là, il y a eu une démarche un peu plus volontariste de la région qui a encouragé très chaudement la métropole grenobloise, qui avait déjà posé des actes sur l'ESS, la métropole lyonnaise et la métropole stéphanoise, ainsi que la métropole roannaise, à avancer sur l'ESS. Et avec ces quatre métropoles, on a effectivement conclu des accords plus ou moins efficaces. Avec le Grand Lyon, Douma visait, c'était pas efficace du tout.
Non.
Parce qu'on a inscrit des priorités en matière de SS et il a fallu attendre au moins 4 ans pour qu'elles se mettent en œuvre au démarrage. Deuxième épisode du film, c'est l'État général de l'économie sociale. Donc, on répond présent à l'appel de ce qui deviendra le labo de l'ESS. Donc, on était en train de préparer le deuxième contrat sectoriel. Et on a trouvé que c'était intéressant d'associer nos collègues des collectivités, de l'État, des mouvements associatifs, CRES, coopératives, etc., etc., à une réflexion plus de lobby pour préparer ce qui deviendra la loi ESS. On avait bien compris que l'enjeu des États généraux, c'était bien de préparer le terrain pour l'élection présidentielle, afin que dans le bagage du futur président, quel qu'il soit, il puisse y avoir une loi sur l'ESS. Donc ça nous amène à un niveau de collaboration très différent. Ce n'est pas éco-financer des actions, c'est faire du lobby ensemble au niveau régional. Et quand je dis régional, ce n'est pas le conseil régional, c'est l'ensemble des acteurs qui sont sur la région, pour pouvoir faire émerger une volonté politique nationale, voire européenne. Comment Rhône-Alpes, qui avait une petite longueur d'avance sur d'autres régions autour des plans d'action ESS, il y avait déjà une petite dizaine de collectivités qui avançaient sur le sujet, d'action en niveau, pouvait dire quelque chose d'intelligible pour les parlementaires, pour les administrations centrales, etc. Ça a plutôt bien marché, on a fait des états régionaux des villes sociales, donc avec l'ensemble des partenaires, et ça a créé aussi des liens personnels avec des élus qui pour partie se connaissaient parce qu'ils étaient dans les mêmes familles politiques, principalement des socialistes, des écologistes et des communistes, pour dire clair les choses. Il y avait quelques démocrates chrétiens aussi. Et puis des relations qui se sont construites, comme le Daniel a raconté. Donc on s'est petit à petit connus, reconnus. On a commencé à se dire, bah, tiens, on a peut-être des choses à faire ensemble. Donc j'ai de mon côté pris l'initiative de proposer à mes collègues des rendez-vous carottes. Donc la ville, l'agglo, le département, la région. Afin qu'on puisse, au-delà du plaisir qu'on avait à se voir, discuter des perspectives de la loi, etc., etc., de tout le mal que nous donnait l'État,
et tout. Le département. Il n'y avait pas le département.
Il n'y avait pas le département. Ah, il y avait le département dans d'autres régions.
Nous, il y avait pas.
Dans d'autres départements.
Et ça, on pourrait en parler, justement, si
bien sûr. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'articulation de la programmation réciproque. Ce que vous avez dit, Daniel le sait, il y a un porteur de projet qui demande des sous à la ville, à l'agglo, au département, à la région. Plutôt qu'on y aille en ordre totalement dispersé, on se dit, bah, toi, il t'a demandé quoi? Combien tu vas mettre? Si ça t'intéresse, ça ne t'intéresse pas. Alors, si tu y vas, est-ce que j'y vais? Si tu ne vas pas, est-ce que j'y vais? Etc. etc.
On y pense.
Donc, on a fait ça pendant 2 ans, à peu près. L'État généraux, c'était 2010. On a fait ça en 2012, 2013, jusqu'à aujourd'hui. Et j'essaye sur Grenoble, sur Lyon, sur Saint-Étienne, à organiser ces coordinations interterritoriales qui n'ont aucun statut, qui sont parfois uniquement avec des élus, parfois avec des élus, des techniciens, parfois effectivement au niveau départemental hier, c'était en Isère, parfois qui n'est pas, c'est le cas dans la Loire et dans le Drôme, qui ne sont pas des départements très très volontaristes sur l'ESS, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà, donc ça a constitué une communauté d'élus qui se connaissent bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le chambardement municipal, les nouveaux élus ont plutôt embarqué dans cette communauté. Ils se sont dit, bah tiens, il y a plutôt des gens qui se connaissent, il y avait des gens qui n'avaient pas changé dans l'étiquette, ou qui avaient changé de l'agglo à la ville, comme Denis, par exemple, mais c'était un peu les mêmes, 5-6 élus qui ont structuré des politiques qui sont un peu connues maintenant en région Rhône-Alpes, voire au-delà, et qui ont donné envie à des nouveaux élus, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, ce qui est intéressant, de se dire, bah tiens, là il y a un regroupement de compétences, avec des capacités d'essaimage, des capitalisations de contenu, de cofinancement possible, d'accès à des choses différentes, de différents niveaux, donc ça marche. Et la dernière étape de l'histoire, on la signe ensemble samedi prochain, puisque les 4 signataires historiques, ou 3 signataires historiques du contrat sectoriel, État, Région, CRES, plus quelques dépôts, invite 16 collectivités, je ne vais pas les citer toutes parce que je les invite toujours, des communes, des intercos et un département, à signer ensemble le contrat sectoriel. Ça ne veut pas dire grand-chose sur le plan administratif, en fait, parce que le programme a été défini au niveau régional, il est structuré principalement par l'État, la CRES, la région et la Caisse des dépôts. Mais en revanche, l'engagement politique porté par l'ensemble de ces 20 acteurs publics ouvre une perspective tout à fait intéressante pour demain. C'est ce que je disais en plénière ce matin. Voilà, fin de l'histoire pour ne pas être trop long. Maintenant, il y a 4 principes d'action que je dégage de ça autour d'une stratégie pour une économie sociale transformatrice de la société. On l'a dit aussi ce matin, pour ceux qui n'y étaient pas, je résume en 2 secondes. Nous promouvons les uns et les autres en tant qu'élus et porteurs des politiques publiques une économie sociale qui n'est pas que réparatrice des dégâts de la croissance, mais qui aurait été vraiment créatrice d'un nouveau modèle de société. Ça, c'est notre projet politique qu'on partage fondamentalement. Ce nouveau modèle n'est pas forcément toujours articulé de la même façon, il ne s'explicite pas forcément de la même manière sur le plan idéologique, mais nous cherchons effectivement des sorties de crise, des opportunités pour que le bien commun, au bout du compte, soit accessible au plus grand nombre en matière de développement des richesses, de parcours personnel, d'accès à la culture, à la formation, à l'emploi, à l'éducation, etc., etc., etc. Pour ça, quatre principes. Le premier, c'est la subsidiarité. Donc, je ne suis pas toujours très, très suivi par mes petits camarades de la région, mais là, j'y tiens beaucoup. La décision pertinente, c'est la décision la plus proche de l'action. Donc, si une commune est pertinente pour décider, c'est à elle de décider. Et ce n'est pas spécialement à l'interco, au département ou à la région. Il n'y a pas de hiérarchie entre les collectivités. Donc, c'est le principe de subsidiarité qui doit s'appliquer. C'est ce que l'Union européenne nous a appris à faire depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis la construction de l'Union européenne. Donc, c'est ce qu'on doit imaginer aussi, nous-mêmes, à l'échelle de nos territoires. Et on n'est pas très habitué à ça. Donc, à l'échelle de l'économie sociale, si un projet émerge, si une capacité de transformation locale émerge, elle doit être gérée, pilotée au bon niveau de pertinence, en fonction des acteurs concernés, donc des mécanismes en place, du circuit donc à développer, des moyens à mobiliser. Deuxième principe, c'est l'effet d'échelle. C'est tout bête, mais quand on veut négocier avec la BPI, donc la mise en place du fonds d'innovation sociale, à l'échelle d'une petite commune, c'est totalement impossible. C'est même impossible à l'échelle d'une agglomération, voire de la région d'ailleurs. On doit se mettre à plusieurs régions, et avec le soutien large de l'État et de la Caisse des dépôts, pour négocier avec la BPI des outils qui soient vraiment accessibles aux acteurs de l'ESS. Donc il y a des choses qui en revanche sont mobilisables au niveau local, donc, auxquelles on ne peut pas accéder nous de notre côté parce que c'est trop compliqué, c'est trop coûteux. Par exemple l'épargne de proximité. On peut mettre en place un fonds de fonds qui va doter le Val de Drôme par exemple pour soutenir son épargne de proximité, mais ce n'est jamais nous qui serons porteurs d'une démarche d'épargne de proximité en Val de Drôme, c'est impossible. On n'a pas de technicien sur place, on n'a pas d'élus compétents, il n'y a pas de circonscription en Val-de-Drôme au niveau du conseil régional, c'est heureux. Il n'y en a même pas au niveau de la Drôme d'ailleurs. Donc, les élus de la Drôme, entre guillemets, sont les élus régionaux. Donc il faut qu'on trouve effectivement des capacités d'interagir ensemble pour mettre en place des outils qui s'articulent entre eux. S'il n'y a pas de ciseaux, il n'y a pas d'accès au fonds de la BPI. S'il n'y a pas d'accès au fonds de la BPI, c'est difficile de mettre en place un fonds de fonds sur les panneaux de proximité, avec un petit appui FEDER, fonds européen. Et si on ne fait pas tout ça, Val de Drôme aura beaucoup de mal à mettre en place sur les panneaux de proximité. Donc il y a toute une démarche de Lego, de poupée gigogne, toujours un peu délicat et complexe, mais qui peut vraiment payer. Troisième principe, c'est la synergie. Donc, c'est le bête principe selon lequel quand on est plusieurs, on est souvent plus intelligent, qu'à plusieurs on va un peu plus loin, même si tout seul on va plus vite. Et donc, la capacité à faire travailler ensemble des élus qui sont relativement isolés en général, des techniciens aussi qui sont isolés, qui se disait Dounia, entre le collègue à la vie associative, le collègue à l'environnement, le collègue à la vie économique classique, le collègue au sport, à la culture, à la politique des villes, etc., l'élu à l'économie sociale, il est obligé un peu de tirailler tout le monde, et quand il parle de ce qu'il fait, personne ne l'écoute, parce que ça n'intéresse personne quand on est des a priori que tout le monde a sur l'école sociale. Quand on se retrouve à une vingtaine de décideurs régionaux sur ce sujet, d'abord, on se fait du bien au moral, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul par rapport à toutes les difficultés qu'on vit, et puis on se donne des idées les uns les autres, et on est capable d'inventer des solutions qu'on n'aurait pas inventées tout seul. Et puis le quatrième principe, j'y tiens beaucoup, mais ça c'est le petit plus régional, c'est la solidarité entre les territoires. Je suis très heureux qu'il y ait une métropole lyonnaise. Je serai encore plus heureux quand cette métropole sera solidaire avec ses territoires avoisinants. Parce que moi j'habite dans une commune qui est limitrophe, donc juste au bord de la métropole, et donc 500 mètres après, c'est plus la métropole. Et je sais très bien, parce que je connais bien le conseil général du Rhône depuis longtemps, que l'action sociale du conseil général Nouveau Rhône ne sera pas du tout la même que l'action sociale de la métropole. Il y aura beaucoup plus de moyens, d'intelligence et de capitaux sur la métropole qu'il n'y aura ailleurs. Et ça, c'est vrai pour la métropole, c'est vrai pour la région, et c'est vrai pour nos régions, collectivement, entre Aurillac et Annemasse, et des solidarités qu'on doit inventer demain, qui feront qu'il n'y aura pas des poches de pauvreté, des poches de richesse, mais une capacité d'essaimage et d'appui collectif des acteurs publics et des acteurs privés. L'économie sociale n'est pas du tout répartie de manière égale en Rhône-Alpes. C'est intéressant, il y en a beaucoup dans les grandes villes et il y en a beaucoup dans les zones très rurales. Mais il y a tout un tas de taches blanches, de zones blanches très très importantes dans lesquelles il n'y a rien du tout. Et ça, ça me désespère parce que mon objectif politique, c'est de faire en sorte que tout Rhône-Alpin, voire tout Auvergnat et Rhône-Alpin demain, tout aura. Donc, qui souhaite porter un projet collectif puisse le faire grâce à notre politique. Il y a des zones dans lesquelles ce n'est pas possible du tout parce qu'il n'y a personne pour accompagner. Et des zones dans lesquelles il y a trop de gens pour accompagner. Des zones dans lesquelles il n'y a personne pour accompagner. C'est aussi ça qu'on va inventer ensemble. Et ça, ça nécessite de véritablement construire ça ensemble. Avec ses effets donc, de subsidiarité, d'échelle, de synergie, de solidarité. Enfin,